toute l'actualité du œuf sur Facebook et Twitter avec Osmose Radio.
Osmose ?
Osmose.
La web radio du œuf.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
L'animateur radio a toujours raison. L'animateur radio a toujours raison. J'arrête pas de le dire aux gentils techniciens d'Osmose Radio, mais il faut toujours qu'ils me contredisent. Hein. Donc Lucas et Alexis, vous arrêtez de m'embêter maintenant. Bon, quoi qu'il en soit, l'animateur radio a toujours raison. Bah, de qui je me suis inspiré pour cette brillante analyse ? Eh bien, c'était de Mussolini, bien sûr, qui disait « Le Duce a toujours raison », qu'il avait même fait inscrire dans la constitution italienne de l'époque. Et ce programme off du Festival 2007 est riche en figures historiques très intéressantes. Et pour une fois, on a ce personnage controversé qui a été majeur dans l'histoire contemporaine et qui pourtant est relativement peu abordé au théâtre, au cinéma. Et là, ben justement, j'ai quelqu'un qui a eu l'audace d'aborder la dimension de ce personnage historique, c'est Tom Corradini. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Avignon, bonjour à tous les écouteurs de la radio, Osmose Radio, et bonjour tout le monde. Non,
et vous êtes italien et vous parlez vraiment très bien français, ce qui me facilite un peu l'interview.
J'essaie de parler français, mais moi je suis bilingue. Langue anglaise, italienne, mais le français, c'est une langue latine, alors c'est pas si difficile comme les chinois.
Allez, bah écoutez, quand vous irez jouer ce spectacle à Pékin, vous me donnerez votre retour, ce sera intéressant. Mais pour le moment, vous parlez de Mussolini, donc que vous interprétez dans cette pièce, Il Consiglio, c'est ça ?
Grand Consiglio.
Grand Consiglio,
que ça veut dire le Grand Conseil en français. C'était le Grand Conseil du fascisme. Et la pièce se joue dans la nuit du 24 juillet 1943, quand le Grand Conseil du fascisme décide l'enlèvement de Benito Mussolini comme chef d'État.
Voilà. Quand il a été évincé du pouvoir, alors qu'il croyait y être, ad vitam. Ça se joue à 19h chaque soir jusqu'au 26 juillet inclus. Et c'est au The Grand, au TGI, en fait, qui est le théâtre international qui se trouve rue de la Balance, où vous pouvez voir des spectacles joués par beaucoup de compagnies étrangères, alors des Japonais, des Chinois, et vous, donc, au titre de l'Italie, Tom. Alors,
La pièce, c'est en français, hein, parce qu'il y a aussi des pièces qui sont jouées là-bas, qui sont en anglais, mais cette pièce, je la fais en français, je fais l'effort de parler cette langue extraordinaire.
The Garage International, voilà, enfin je me suis rafraîchi les mémoires, que vous trouvez rue de la Balance, juste derrière le Palais des Papes. Alors, effectivement, vous avez fait, c'est déjà une belle performance d'écriture, Tom Corradini, puisque vous avez écrit cette pièce en anglais,
oui.
Vous l'avez jouée à l'occasion, et là, vous l'avez traduite en français pour la jouer à Avignon cette année 2017, et pour vous, c'est un peu une première.
C'est la première fois que je joue en français et c'est pas ma langue maternelle, alors non, c'est un peu drôle. Il était un peu drôle au commencement, maintenant je me sens bien, je dois dire, quand je joue cette pièce, c'est étonnant pour moi, c'est une vraie découverte. Et je l'ai écrit pour la première fois en anglais, justement, et après je l'ai traduit en italien. Cette année, j'ai fait 30 représentations dans toute l'Italie, presque toute l'Italie, sauf l'Italie du Sud. Et à l'étranger, je l'ai fait en Angleterre, à Brighton, pour exemple, et je l'ai fait aussi dans la République tchèque, à Prague. Pendant le Fringe Festival de Prague, où j'avais gagné les prix comme meilleure performance là-bas.
Mais en même temps, Prague, c'est un nom emblématique de ces lieux qui ont subi le totalitarisme, en l'occurrence le totalitarisme soviétique. Donc une pièce, un projet comme le vôtre est particulièrement important pour eux.
En fait, l'idée a surgi à Prague en 2012. Moi, j'étais là-bas avec une autre pièce qui s'appelle Super Héros. Et en 2012, je ne sais pas, il a surgi spontanément. J'étais dans un endroit à Prague, et peut-être l'architecture, non, de la ville, parce que aller à Prague, c'est un peu comme faire un voyage dans les temps, non, de retourner dans cette période, ça veut dire les 1930. Et j'ai vu cette idée, et après 2 ans, j'étais à Berlin à faire un workshop de clown avec Philippe Gollier, qui est un très fameux professeur de théâtre physique, et il m'avait dit, écoute, nous faisons cette workshop ensemble et je te donne deux possibilités. Tu peux jouer Monsieur Propre ou tu peux jouer dans ce workshop Benito Mussolini. Alors j'ai dit, ok, je le peux faire, et j'ai commencé à écrire la pièce.
Ça, ouais. Alors, vous êtes venu à Mussolini en faisant un travail de clown, et je ne vous cache pas que ça se ressent dans votre interprétation. Oui.
Non. En même temps, moi, j'étais intéressé sur l'histoire de Benito Mussolini parce que mon père était obsessionné sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou Seconde Guerre mondiale. Moi, je sais vraiment tout. Et il m'a obsessionné pour 20 ans. Il avait tous les discours de Gaulle, de Winston Churchill, de Hitler, de Mussolini. Et il me parlait toujours de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je pense que j'étais fortement influencé par mon père aussi. Alors, les deux choses, on s'est réunis ensemble. La côté de l'acteur et de le clown, et la côté aussi historique. Et j'ai fait beaucoup de travail historique avant d'écrire cette pièce.
D'accord. Et une pièce, alors que je tiens à le préciser d'entrée de jeu, une pièce qui n'est pas une hagiographie de Mussolini, je veux que ce soit bien clair, c'est une analyse assez critique du personnage, mais en même temps qui ne renie pas l'humanité, le côté humain de cet homme-là. Et si je précise que c'est pas une hagiographie, c'est parce que bon, on est dans une période politique un petit peu sensible, où l'extrême droite revient en force et où la nostalgie des années Mussolini se ressent en Italie, mais ailleurs aussi. Et du coup, il y a des tas d'idéologies très dangereuses derrière tout ça. Ce n'est pas du tout l'objet de votre spectacle, je tiens à le préciser, puisque vous avez une analyse non seulement critique du personnage, mais aussi vous en faites parfois un grotesque par rapport à ce jeu de clown. Et donc vous pouvez aller voir ce spectacle sans forcément être dans des tendances idéologiques, identitaires ou quoi. Vous allez passer vraiment un bon moment, je tiens à le rappeler. Et donc vous donnez ce côté un petit peu grotesque au personnage qui ne vous avait pas attendu. D'ailleurs, il suffit de regarder les vieilles images d'archives. Le Duce, quand il faisait des discours, des fois il se prenait à son propre jeu.
Moi, j'étais intéressé à analyser les caractères ou les personnages du point de vue intime. Ça veut dire que Benito Mussolini avait une façade extérieure, non, la propagande, je ne sais pas comment ça dit en français, mais de toute façon, la version officielle de ce que lui était. Mais aussi, il y avait une part intime. Et pour moi, c'est beaucoup intéressant parce que c'est trouver les petites Benito Mussolini qu'il est dedans chaque personne. Ça veut dire que la pousse psychologique de la dictature est cachée dans chaque de nous, et ça c'est très intéressant. Et en fait, la nuit du 24 juillet 1943 était pour lui le jour de la défaite totale. Ça c'est le jour où son même parti l'avait poussé dehors du pouvoir, non? Et alors pour les clowns, ça c'est très intéressant parce que les clowns, ça devient vrai quand les personnages que ça interprète tombent dans la faillite. Je ne sais pas si le dit bien en français, mais it's unsuccessful, on a dit en anglais.
Voilà, oui, il fait un vide en quelque
alors,
sorte.
Et clairement, il y a le point de vue de Mussolini, le narcissiste, l'homme de pouvoir, mais en même temps, il y a l'homme. Et seulement quand on doit voir vraiment l'obscurité, non, l'abysse, qu'on ne comprend vraiment, on touche notre intimité, non, quand nous sommes rejetés. Et alors, il était compliqué pour moi parce que en jouant ces personnages, on est toujours dans les dangers de les transformer dans une marionnette, non, un personnage que ce n'est pas réel, et je pense que j'ai fait un bon travail là, à maintenir la réalité de ces personnages. Mais c'est une investigation historique. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de liaisons avec ce qui passe maintenant. En Europe, ça veut dire la crise économique, le fait que le nationalisme
revient
en force, et tout ça. Mais il n'y a pas aucun point de vue idéologique. C'est vraiment, j'étais vraiment neutral. Et j'ai reçu beaucoup de revues de presse qui, surtout sur ce point, que c'est pas une investigation idéologique, mais c'est une investigation humaine et d'histoire, ça c'est tout. L'histoire de cette période, c'est vraiment intéressant. Hein.
D'autant plus que vous travaillez sur l'histoire de votre propre pays. On sait que l'Italie est un pays où le Parti communiste a été très puissant pendant l'époque. Il y a eu les brigades rouges, le terrorisme, etc. L'attentat de Bologne, ça c'est contemporain. Et puis aussi, il y a le retour en force marginal, mais en attendant très dynamique, des identitaires, l'équivalent des identitaires en France, avec les musées de la culture comme Casa Pound, par exemple, à Rome, etc. Donc il y a quand même une jeunesse et un renouveau de la tendance fasciste en Italie qui fait que vous êtes un petit peu sur le fil de rasoir. Et c'est pour ça que je
suis sur le fil de rasoir. Ouais, moi je ne dirais pas qu'il y a une résurgence du fascisme. Sûrement, il y a en Italie l'identité nationale. Non? Mm-hmm. Moi, je vois c'est ça dans toute l'Europe. Hein. Ce n'est pas une chose italienne. En Autriche, en Pologne, même en France.
Tout à fait.
Alors, l'identité nationale de chaque nation européenne va à surgir un peu. Et je pense qu'en contraste avec une idée de l'Europe, que c'est une idée d'une Europe centralisée, non, qui veut effacer toutes les identités nationales. Mais je ne dirais pas qu'il y a en Italie un problème de fascisme. Il y a sûrement un problème de droit social, on peut le dire, mais le fascisme s'est passé. C'est pas, il y a plus danger je ne sais pas les mots en français.
Une nostalgie peut-être? Non, parce que, excusez-moi, mais ça pourrait très bien être de l'ordre de la nostalgie.
Il y a une nostalgie pour le fait que de 1920 à 1933-34, l'Italie était pendant cette période une grande puissance, je pense. De toute façon, une puissance respectée.
Tout à fait.
Et maintenant, maintenant avec la crise économique en Italie, les problèmes des migrants, et tout ça, les taux de chômage, c'est un cocktail qui va créer sûrement une période de nostalgie. Mais la nostalgie, c'est seulement une chose. Regardez au passé parce que le présent, c'est si bon. Non? Parce que si le présent était plus bon du passé, alors il n'y aura pas de nostalgie. Je pense que c'est comme ça, non? Toujours. Mais même en Angleterre, il y a... Moi, je connais très bien l'Angleterre.
Oui.
Il y a une nostalgie maintenant d'un passé glorieux, non? Vous avez vu avec la Brexit, non? Que les Anglais ont dit, non, nous sommes Anglais et nous voulons décider, nous, de notre vie. Et c'est un procès en Europe très intéressant. La pièce, c'est historique, mais il y a ces liaisons, non, avec ce qui passe maintenant, parce que ce qui passe maintenant, d'une certaine façon, ressemble ce qu'il avait passé pendant les années 30 en Europe.
Tout à fait, on constate des résurgences d'une période historique à l'autre.
Oui,
et alors après, sur tout ce qui est nostalgie, comparaison entre la société ancienne et la société nouvelle, on pourrait en parler des heures parce que c'est vrai que c'est passionnant, mais si je me permettais justement de faire cette comparaison entre avec la nostalgie, un petit peu comme parfois certains Allemands ont la nostalgie de l'Allemagne de l'Est, alors même que c'était un régime oppresseur, mais en même temps c'est humain, faut comprendre quoi. Et peut-être que les Italiens ressentent un peu ça, c'est ce que moi je vois de ce côté-ci de la frontière, vous savez mieux que moi, quoi qu'il en soit. Et si je disais ça, c'est parce que aussi horrible que ça ait l'air, et vraiment ça m'ennuie de dire ça, et pourtant c'est la vérité, il y a eu quelques aspects entre guillemets positifs à l'époque dans le fascisme et qui ont été des facteurs de progrès sociaux. Parce que pourquoi ? Le fascisme à la base, c'est une forme de socialisme, c'était améliorer la condition des petites gens. Et Mussolini lui-même était quelqu'un d'extraction très humble, vraiment...
Il était un socialiste.
Voilà.
Pour 14 ans, il était un membre du Parti Socialiste Italien.
Et c'est lui qui a amené des Casa del Popolo, etc., dans tous les petits villages, des maisons de la culture, dans des endroits assez reculés où les gens pouvaient aller se documenter, etc. C'était la culture sous la domination fasciste, certes, mais en attendant, c'était un premier pas aussi au niveau des mœurs.
Oui, oui.
Parce que dans l'Italie, la société traditionnaliste italienne catholique, on dansait deux fois avec une fille au bal, il fallait la marier. Dans la société fasciste, on pouvait vivre en concubinage quand même.
Oui, oui.
Et ça, c'était pas la libération sexuelle des années 70, bien entendu. Mais tout de même, ça a été un tout petit progrès dans les mœurs italiennes de l'époque.
Les périodes que le régime fasciste est né dans les 1923 et jusqu'à les lois contre la race juive qui sont émises...
1938.
Pendant ce qu'on s'appelle les premières 15 ans, on peut dire, non, et le fascisme était un expériment dictatoriel. on doit dire était une dictature, mais était un expériment d'économie socialiste où l'État contrôlait une partie de l'économie, mais en même temps, il laissait les entrepreneurs, les personnes qui géraient les grandes entreprises libres de faire
les affaires, ouais.
Ou les affaires. Mais en même temps, il avait cette partie socialiste très forte. Pour exemple, le système de la retraite italienne est né avec le fascisme. Et les 40 heures, ça veut dire l'obligation de travailler pas plus de 40 heures à la semaine, c'était une chose que le fascisme avait mise en place. Même les maisons du peuple, et il avait cette partie socialiste, et c'était un expériment social qui a duré pour 15 ans. Et moi, je l'ai dit dans la pièce aussi, il était un expériment qu'il était regardé aussi de l'extérieur, de l'étranger, avec intérêt, parce que Winston Churchill, pour exemple, il était un très fort anti-bolchevique, okay? Il regardait avec sympathie Mussolini, sûrement, au commence, et même les Mahatma Gandhi, le chef...
Ça, c'est inattendu, quand même.
Oui, oui, oui. Il avait parlé avec Mussolini, il n'aimait pas la côté dictatorial du régime, mais il regardait avec intérêt ce qu'étaient les projets économiques. Et maintenant, on doit dire c'est ça, la crise économique européenne aura besoin de nouveaux modèles, pas les modèles fascistes, sûrement, mais sûrement de penser quel type de modèle nous pouvons utiliser pour sortir
de la crise économique et morale, même et sociétale, qu'on traverse actuellement. Et c'est vrai que, bon, on a posé un petit peu le contexte par rapport à la société fasciste. Revenons à votre spectacle. Et vous insistez aussi, vous le laissez en filigrane, parce que vous parlez un petit peu de la concubine du Duce lui-même, qui était juive elle-même. Et il n'y avait pas de composante.
Non, alors, j'ai parlé d'une des concubines qui est Margherita Sarfatti. Oui, elle était juive et fasciste, oui, c'est vrai.
Voilà. Et il y avait donc, jusqu'en 1938, il n'y avait pas d'antisémitisme ni de racisme dans le fascisme. Ça, c'est à partir du moment où Mussolini s'est laissé subjuguer par Hitler, alors qu'il lui avait tenu tête pendant une petite dizaine d'années.
On doit dire que ça était sa responsabilité de faire les lois contre les juifs en Italie. Honnêtement, il était sa responsabilité. Peut-être qu'il, sûrement, il était influencé pour la présence d'Adolf Hitler, mais jusqu'à l'invasion de l'Autriche, Adolf Hitler rispettait beaucoup Mussolini. Pour exemple, quand les troupes allemandes ont envahi l'Autriche, Adolf Hitler avait personnellement téléphoné à Mussolini pour lui demander la permission de faire ça. Okay?
C'est vrai.
Alors, je pense que les deux choses les deux choses qui sont sa responsabilité de Mussolini, c'est les lois contre les juifs et l'entrée en guerre. Ça, c'est franco, parce qu'il avait beaucoup de régimes de droite en Europe.
Le franquisme pendant la guerre d'Espagne. Voilà.
En Espagne, Salazar en Portugal, le fascisme en Italie, Adolf Hitler en Allemagne, mais l'entrée en guerre, quand on fait une guerre, c'est comme jouer tout dans la roulette.
De D, ouais, le lancer Aléa Yacta Est.
Oui, alors sûrement, ça, c'est responsabilité.
Voilà, mais c'est vrai qu'il assume totalement cette responsabilité face à l'histoire, mais à mon humble avis, il s'est vraiment laissé subjuguer par Hitler, qui lui était un va-t-en-guerre, alors que le fascisme, à la base, c'était pas forcément la guerre.
Parce que l'Allemagne était une puissance plus grande de l'Italie, et oui, l'Italie n'avait pas une structure militaire, même économique, je pense, qui pouvait contraster un peu la puissance allemande. Il y a aussi une légende, parce que dans le spectacle je parle de la correspondance, la fameuse correspondance entre Winston Churchill et Mussolini. La légende dit qu'il avait cette correspondance depuis le début de la Première Guerre mondiale, et on dit aussi, mais ça c'est, nous ne sommes pas dans le royaume du fait historique. Non? Le fait historique, nous nécessitons d'une documentation. Mais on dit que Winston Churchill avait un peu voulu l'intervention de l'Italie contre la France en 1940. Parce qu'il pensait que l'Italie pouvait un peu contenir l'Allemagne. Maintenant, en rétrospectif, c'est tout facile, mais nous devons vraiment vivre l'événement comme si nous étions dans à quelle période. Et la défaite de la France était une chose étonnante, parce que la France avait la plus grande armée d'Europe.
Hein. À l'époque, c'était considéré comme la plus grande armée d'Europe.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est le seul point de détail de votre spectacle qui est un peu sujet à controverse. Mais tout ce que vous laissez en filigrane de votre spectacle, le contexte historique, les relations de Mussolini avec les dirigeants étrangers et l'admiration qu'il pouvait susciter, parce qu'il était à l'origine d'un régime tout à fait novateur à l'époque.
Oui.
Aujourd'hui, on sait que le fascisme, c'est horrible. Mais à l'époque, les gens ne le savaient pas, il fallait qu'ils le découvrent.
Oui.
Donc, soyons honnêtes et prenons un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et donc, tout ça, donc le contexte aussi de la société italienne, tout ça, ça vient un filigrane de votre spectacle.
Oui.
Et il n'y a pas d'erreur, tout ça c'est basé sur des faits avérés. Mais pour autant, vous intéressez vraiment à la personne de Mussolini dans cette période de sa décadence, hein, disons-le clairement.
Oui.
43, il est enfermé par le Grand Conseil italien, donc c'est la prise de pouvoir de Badoglio, du maréchal Badoglio, qui va négocier avec les alliés anglo-américains.
Oui.
Et on sait qu'après il y aura la République de Salo, auquel Pasolini a consacré un film, que Hitler fera enlever Mussolini pour le mettre à la tête d'une république fantoche, mais tout ça c'est pas le contexte. On le sait si on l'a lu quelque part, mais c'est pas le contexte de votre spectacle.
Non.
Et là, Mussolini est entre ces deux écueils, sa gloire et sa fin. Et du coup, il est un petit peu sur le fil du rasoir, lui aussi, et il apparaît dans cette dimension très humaine. En même temps, j'ai l'impression que vous faites aussi preuve d'autodérision. Vous ne moquez pas seulement de lui, mais aussi de l'homme italien que vous êtes, hein, que vous incarnez à nos yeux, vous parlez des relations des hommes avec leur mère. Mama, oh mama, vous embrassez, vous montrez Mussolini en train d'embrasser la photo de sa mère, comme le feraient tous les hommes italiens.
C'est vrai.
Vous charriez un peu, vous n'êtes pas tous comme ça.
Il était un dictateur, mais en même temps, il était un homme italien. La dictature fasciste n'était pas une dictature avec beaucoup de morts comme la dictature du nazisme ou même du Staline, qui
est
incroyable. Mussolini avait un buste, on s'est dit, de sa mère, un buste dans sa table. Moi j'ai une photographie, mais la vérité est qu'il avait un buste de sa mère qui s'appelait Rosa, et il était très attaché à sa mère, et il était aussi un tombeur de femmes, ça peut dire, un chauviniste, absolument, un narcissiste, mais dans les royaumes de péché, je pense qu'il était très humain. Ça veut dire la côté humain, non, c'est un peu notre côté un peu animal, un peu, non, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mussolini n'était pas un être parfait, pas du tout. Et ça, pour moi, était très intéressant. Oui.
Et c'est vrai que je vous rejoins sur le point que vous signalez tout à l'heure. Le fait de se moquer comme ça de Mussolini, de ce côté grotesque, clown, etc., et en même temps, sachant que c'est un homme qui inspirait tous les politiques de l'époque, en bien ou en mal, eh bien, ça nous renvoie à nous-mêmes, alors qu'on se croit. On se croit vertueux, on se croit démocrate, etc. On a tous en nous cette petite graine de fascisme qui ne demande qu'à germer et qu'il faut surveiller, mais ça c'est notre responsabilité en tant qu'individu à chacun.
Oui,
bien
je voudrais ajouter ça, une chose. Les premières 10 minutes du spectacle, et avec c'est ça je termine, ils sont pris dans le livre, que c'est La psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est un écriteur français, et c'est un livre qui a été écrit en 1880 quelque chose, moi je me rappelle, je ne me souviens pas, je pense 93. Et dans ce livre on se parle de comment manipuler les foules, non, dans les discours politiques. C'est un livre qu'on peut lire aujourd'hui,
sur
Internet. Oui, il n'y a pas de droit d'auteur, alors vous le pouvez télécharger d'Internet, et très facile à lire, et c'est étonnant comme les techniques qui sont décrites dans ce livre sont utilisées même aujourd'hui dans la télévision, dans tous les discours politiques.
La publicité,
tout ça. Alors, on se peut un peu vacciner avec ce spectacle, non? Parce que quand tu connais la magie qu'il y a dans une chose, tu es un peu vacciné, non?
Merci de nous mettre le pied à l'étrier, La psychologie des foules, de Jacques Lebon, c'est ça?
Non, et Gustave Lebon.
Gustave Lebon. Donc, un ouvrage à lire et qui est pertinent encore aujourd'hui. Alors, Alors, écoutez, j'invite tout le monde à aller voir ce spectacle au Garage International, rue de la Balance, à 19h, pendant encore mardi 25 et mercredi 26 juillet à 19h, disais-je. Alors, vous êtes satisfait de votre Festival d'Avignon parce que vous êtes resté une petite semaine, en fait.
Moi, je suis très satisfait. D'abord, j'ai joué en français. J'ai découvert quelque chose de moi-même.
C'est félicitations, toujours... c'est vrai que c'est pas facile.
C'est toujours un voyage de découvertes personnelles. Avignon, c'est une ville incroyable, je pense. On vit un petit rêve, d'une certaine façon. J'avoue aussi des très bonnes revues de presse. J'ai compté deux pour le moment, mais je suis sûr que je vais voir autre. Et peut-être que je vais pas... Non, peut-être. Sûrement, je vais faire cette pièce dans un autre théâtre ici en France et peut-être même en octobre déjà dans un théâtre à Paris. Je suis en train de parler avec un théâtre à Paris.
Ben c'est tout ce que je vous souhaite, mais en quelques mots tout de même, moi je vois ça de l'extérieur, mais pour les Italiens eux-mêmes, quand ils ont vu votre spectacle, vous m'avez dit que vous l'aviez joué dans des écoles.
Oui,
comment les enfants, les adolescents réagissent à votre spectacle?
C'est un spectacle très historique, il fait partie de cette période de l'histoire, il fait partie de ceux qui on s'enseigne en Italie dans les écoles. Il est un bon racine, je pense. C'est une petite leçon d'histoire, d'une certaine façon. Et moi, j'étais un professeur avant, pour 13 ans, dans les lycées. Moi, je suis ingénieur. Ma vie, c'est très étrange. Et j'aime beaucoup jouer théâtre et faire mes pièces dans les écoles parce que c'est part de mon passé. Non, on doit embrasser son
public. C'est un public que vous connaissez déjà, finalement.
Oui. Et c'est un public très difficile parce que, surtout les garçons et les filles entre 16 ans et 19 ans, ils sont adultes. Mais en même temps, leur niveau de concentration, c'est un peu plus faible.
J'espère qu'ils ne sortent pas leur smartphone pendant le spectacle, tout de même, ce serait déplacé. Oui. Allez, Tom Corradini, vous êtes originaire de Turin, et pour conclure là-dessus, pour l'anecdote, vous intervenez vous-même à la radio, vous êtes investi dans une web radio consacrée au théâtre dans votre ville de Turin, justement.
Oui, c'est un programme qu'on s'appelle Tobuki, comme Kabuki, mais
le théâtre japonais,
mais Tobuki pour Turin. Et c'est le podcast sur SoundCloud. Aussi, il y a un site internet de la compagnie que c'est www.tomcorradini.it, comme Italie. Et la compagnie a beaucoup d'autres spectacles. Ça, c'est un des 7 ou 8 spectacles. Je ne me souviens pas que nous portons un tour en Italie et à l'étranger.
Très bien, eh bien, on ira voir ça avec intérêt et ça nous permettra un petit peu de travailler notre italien à l'occasion, même si vous-même vous parlez très très bien français. Merci Tom Corradini
d'être venu nous parler de ce spectacle. À la ville d'Avignon, à tous les Avignonnais, je ne sais pas comment ça dit, mais tous les citoyens d'Avignon.
C'est bien ça, c'est bien ça. Écoutez, on va se quitter, chers amis, avec un morceau que n'aurait sans doute pas du tout aimé Mussolini, puisque c'était le chant des partisans italiens. Bella ciao.
Bella ciao.
Sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà
e dirà: oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà.